Bonjour à tous et à toutes. J'ai un petit invité ce matin qui m'oblige à faire ressortir les bases de ma voix. Et j'espère que ça tiendra toute la matinée. Ça fait plaisir de vous retrouver et de vivre ce temps de culte ensemble. Et je vous invite à poursuivre notre parcours dans le livre de l'Ecclésiaste. Et nous en sommes au chapitre 8, dans la section précédente, qui remonte donc au mois dernier, au début du mois de juillet. L'Ecclésiaste nous avait invités à abandonner nos rêves d'idéal, nos rêves de perfection, et cela dans le but d'avoir un regard lucide sur le monde dans lequel nous vivons, un regard qui est animé par la sagesse. Cette sagesse, elle est bonne. Elle présente bien des avantages sur la folie. Dans le texte que nous parcourons aujourd'hui, l'Ecclésiaste poursuit sa réflexion en mentionnant un certain nombre de facteurs, d'éléments qui font obstacle à la sagesse et qui en limitent son efficacité. Je vous invite à suivre la lecture. Le texte va s'afficher ici. Nous parcourrons tout le chapitre 8 et puis le début du chapitre 9. Qui est comme le sage ? Qui connaît l'interprétation des choses ? La sagesse d'un homme illumine son visage et la sévérité de ses traits en est transformée. Je dis ceci, obéis aux ordres du roi, notamment à cause du serment prêté au nom de Dieu. Ne te presse pas de lui donner ton congé. Ne persiste pas dans une mauvaise cause, car il fait tout ce qui lui plaît. La parole du roi fait autorité. Qui donc lui dira « Que fais-tu » Celui qui respecte le commandement ne se mettra pas dans une mauvaise situation et le cœur du sage saura déterminer le moment opportun et la juste manière de procéder. Car, pour toute affaire, il y a un moment et une juste manière de procéder. Cependant, il y a un grand mal pour l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera. Car qui lui dira « Comment cela arrivera ?» Nul être humain n'est maître de son souffle de vie. Personne ne peut le retenir. Personne n'est maître du jour de sa mort. Il n'y a pas de trêve dans ce combat et la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. J'ai observé tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil, au temps où l'homme domine sur son semblable pour le malheur de celui-ci. Alors, j'ai vu des méchants être enterrés. Les gens allaient et venaient du sanctuaire en oubliant dans la ville comment ces méchants ont agi. Cela aussi est vanité. Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas vite exécutée, le cœur des humains est rempli du désir de faire le mal. En effet, il arrive que le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il prolonge sa vie. Mais je sais aussi que ceux qui craignent Dieu s'en trouveront bien, du fait même qu'ils ont cette crainte à son égard. Mais le méchant, lui, ne s'en trouvera pas bien, et il ne verra pas sa vie se prolonger, passant comme une ombre, du fait qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Il y a quelque chose de vanité qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants, et des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. Alors, j'ai fait l'éloge de la joie. En effet, il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon manger, boire et se réjouir. C'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur auquel il se livre pendant les jours de sa vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre et pour lesquelles les yeux de l'homme ne voient ni le sommeil, ni jour, ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Vraiment, l'homme ne peut comprendre toute l'œuvre qui se fait sous le soleil. L'homme a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si le sage prétend savoir, il ne peut pas comprendre. Car j'ai appliqué mon cœur à tout cela, J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. » C'est le texte que nous allons méditer ce matin. Et l'Ecclésiaste commence par poser deux questions dans le chapitre 1, dans le verset 1. Qui est comme le sage? C'est la première question. Est-ce qu'il faut comprendre cela sous un angle sarcastique? Bon, de toute façon, personne n'est sage, d'ailleurs personne ne sera sage. Il me semble plutôt que l'Ecclésiaste a une visée positive ici. Il me semble qu'il est en train de nous dire « Devenez sage. Qui est sage parmi vous? Qui se comporte avec sagesse? Qui fait tout son effort pour exercer la sagesse ?» Et la seconde question, qui connaît l'interprétation des choses? Eh bien la réponse, c'est le sage. C'est le sage qui est à même de comprendre comment se déroulent les événements qui interagissent dans le monde qui l'entoure. Et nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Il est en train de dire qu'il y a un réel avantage à la sagesse. La preuve, fin du verset 1, « La sagesse d'un homme illumine son visage et la sévérité de ses traits en est transformée. » La sagesse nous conduit à une joie qui change tout, jusqu'à même l'apparence du visage. On peut penser à un verset comme le psaume 34, verset 6, « Celui qui regarde vers l'Éternel est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. » Regarder à l'Éternel, c'est une manière aussi synonyme de se comporter avec sagesse, de s'attendre à l'Éternel, de vivre comme l'Éternel veut que nous vivions. Et je trouve cela très beau de voir, à tout âge de la vie, un visage rayonnant d'une personne, sur une personne. Et peut-être encore plus beau le visage radieux d'une personne âgée. Une personne âgée qui peut être affectée par le grand âge dans son corps, mais pourtant rayonnante dans son cœur. Et cela se manifeste jusque sur son visage. Et c'est souvent, sinon même toujours, le fruit d'une sagesse recherchée, mise en œuvre tout au long de l'existence. À l'inverse, la sévérité des traits d'une personne peut découler de bien des choses comme des soucis, des tracas, des préoccupations, des malheurs qui sont liés à son existence, une déception, de l'amertume, une colère intérieure, de la jalousie, etc. etc. Tout cela conduit à des traits sévères sur le visage. Mais l'exercice de la sagesse vient petit à petit transformer ces traits pour faire apparaître un visage rayonnant. J'aimerais faire peut-être une petite pause là dans la prédication pour faire une très courte page de publicité. Mesdames et messieurs, de tout ce que vous pourrez trouver dans le commerce, la meilleure crème pour votre visage, c'est la sagesse. Donc, la sagesse, elle est avantageuse. Mais en même temps, comme on va le voir par la suite, la sagesse, elle a aussi ses limites. Elle a aussi ses limites. La première limite que l'on va relever, versets 2 à 5, c'est quand le roi limite les actions du sage. Je dis ceci, obéis aux ordres du roi, notamment à cause du serment prêté au nom de Dieu. Ne te presse pas de lui donner ton congé. Ne persiste pas dans une mauvaise voie, dans une mauvaise cause, car il fait tout ce qui lui plaît. La parole du roi fait autorité. Qui donc lui dira « Que fais-tu ?» Celui qui respecte le commandement ne se mettra pas dans une mauvaise situation, et le cœur du sage saura déterminer le moment opportun et la juste manière de procéder. Peut-être rappelons que l'Ecclésiaste, originellement, il s'adressait principalement à des jeunes hommes qui allaient travailler, endosser des postes à responsabilité dans le milieu social de l'époque. Ils allaient côtoyer des personnes importantes dans le monde qui les entoure. Et donc l'Ecclésiaste, il a aussi cette visée-là. Il parle du roi parce que ces personnes allaient être au service du roi. Ils allaient même prêter allégeance au roi, et ce, au nom de Dieu. Mais le principe que l'Ecclésiaste aborde ici, finalement, il peut être appliqué à d'autres structures. Par exemple, jusqu'à nous aujourd'hui, le monde du travail, le monde associatif, un conseil d'administration, et on pourrait mettre point de suspension ici. Alors peut-être, c'est vrai, si on travaille dans un métier libéral, on n'a pas un supérieur à qui on doit rendre des comptes. Mais quand même, dans une grande majorité des cas, il y a un supérieur, un roi, à qui on doit rendre des comptes dans notre travail. L'Ecclésiaste nous donne ici ce conseil. Obéis au roi, à ton supérieur. Au verset 2. D'ailleurs, tu as prêté serment pour cela, et la Bible affirme que on ne transige pas avec un serment. La parole, c'est quelque chose d'important. On s'engage, c'est pour aller jusqu'au bout. Alors, on n'a peut-être pas prêté serment dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos activités, ou même dans notre travail. Peut-être dans certains métiers, oui, il y a un serment. Mais dans la plupart, ce n'est pas le cas. Néanmoins, il y a un engagement qui est attendu de par notre fonction, et peut-être même parfois aussi nos responsabilités. Et le conseil de sagesse de l'Ecclésiaste ici continue, ne te presse pas de lui donner ton congé à ce roi, à ce supérieur. En langage du 21e siècle, on dirait « réfléchis avant d'envoyer ta démission ». Et c'est vrai qu'il est parfois tentant de claquer la porte quand on n'est pas content dans notre travail. Une chose qui me semble importante, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir prêté serment au nom de Dieu, etc., pour connaître et expérimenter la valeur de l'engagement. Et la société dans laquelle nous vivons ne nous encourage finalement pas tellement à l'engagement. D'ailleurs, tout est fait pour pouvoir se désengager. On signe un contrat, à tout de suite, il y a 7 jours ou 15 jours de rétractation. Quand on lit les petites lignes en bas du contrat, souvent ça fait mal aux yeux, mais voilà, on peut se désengager. Tout est fait pour se désengager. Mais c'est peut-être là qu'en tant que croyants, nous pouvons faire aussi une différence. Et nous poser des questions comme, si nous exerçons tel ou tel travail, telle ou telle responsabilité, si Dieu nous a placés aux côtés de telle ou telle personne, ce n'est peut-être pas un hasard. Et ce n'est probablement pas un hasard. Dieu nous a placés là pour une raison. Pourquoi le Seigneur m'a mis ici? Qu'est-ce qu'il attend de moi aux côtés de telle personne? Qu'est-ce qu'il attend de moi dans telle responsabilité? Qu'est-ce qu'il attend de moi, même si les choses ne tournent pas comme je l'aurais souhaité? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de place pour mettre fin à telle ou telle collaboration ou à telle et telle responsabilité, à telle ou telle activité professionnelle. D'ailleurs, il y a exactement un an, jour pour jour, ma famille et moi, nous déménagions ici à Nîmes pour poursuivre le ministère pastoral dans l'église ici. Et c'est bien moi qui avais mis fin au précédent mandat de pasteur. Ceci étant, c'est quelque chose que nous avions mené dans le temps, dans le dialogue, dans la prière, dans la réflexion. On avait annoncé les choses 2 ans à l'avance. Ce n'était pas un coup de tête. C'était réfléchi, c'était posé et construit. Le conseil de l'Ecclésiaste ici, c'est plutôt la démission sur le coup de tête ou parce que finalement, il n'y a pas d'autre choix possible. Le fait de baisser les bras par dépit. Et ça peut être vécu, ressenti comme un manque d'engagement. Pour le dire autrement aussi, un manque de sagesse. Et c'est vrai, il arrive qu'on ne se sente pas écouté, suivi, face à un supérieur, à un collaborateur qui de toute façon fait ce qu'il veut. D'ailleurs, le verset 4 dit qu'il a l'autorité. Point final. Et on en connaît des exemples dans la Bible et ailleurs, où le supérieur ne suit pas toujours les conseils de sagesse. Pour ne donner qu'un exemple, le roi Roboam, fils de Salomon, n'a pas écouté les sages de son royaume. Il a préféré écouter ses copains, qui était pas plus expérimenté que lui. Et ses malheureux conseils ont amené le royaume à ce schisme, cette division, cette séparation en deux entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. 1 Rois chapitre 12. L'Ecclésiaste nous invite à ne pas baisser les bras, ou même ne pas nous révolter. Au contraire, le sage apprendra à guetter la bonne occasion pour trouver la bonne manière de faire, la bonne manière de faire entendre la sagesse, comme on le voit dans le verset 5. Le cœur du sage saura déterminer le moment opportun et la juste manière de procéder. Alors que, si on part, on ne peut plus interagir, on ne peut plus rien apporter, on ne peut plus apporter notre foi, témoigner de notre foi. Pour reprendre un autre texte de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour rester, un temps pour partir, en référence au chapitre 3, et c'est la sagesse qui permet de faire le meilleur choix dans le meilleur moment. Et ce, même si, comme on le voit dans les versets 6, 7 et 8, l'avenir est incertain. Parce que c'est vrai, je ne relis pas ces versets, là, on les a lus tout à l'heure déjà, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ça rejoint aussi l'une ou l'autre chose que Paul, dans la première partie de ce culte, nous a mené. Voilà, on n'a pas la maîtrise sur tous les événements. L'Ecclésiaste l'a dit déjà à bien des reprises dans son livre. Personne ne peut dire de quoi demain sera fait. La seule certitude, comme on le voit ici, c'est que l'on va tous vers la mort. Mais même là, on ne sait pas dire quand et comment. On sait qu'on y va, mais quand et comment? La mort frappera, personne ne peut le dire. Pourtant, tout est fait pour qu'on se protège. Même avec des assurances, les meilleures assurances vie, les meilleures assurances de ceci, cela... Tout est fait pour se protéger dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans notre société occidentale. Et pour autant, inévitablement, la mort frappera quand même. Et l'Ecclésiaste n'a pas fini d'en parler, de cette mort. Même la personne qui se livrerait à la méchanceté, comme on le voit à la fin du verset 8, pensant peut-être pouvoir tirer son épingle du jeu, eh bien rien ne pourra nous la délivrer de cette mort. Et le verset 9 fait la transition avec ce qui va suivre, où l'Ecclésiaste va nous conduire sur le terrain des injustices qui sont elles aussi là, une limite, une seconde limite à la sagesse qu'il aborde dans les versets 10 à 14. Je relis le verset 10. Alors j'ai vu des méchants être enterrés. Les gens allaient et venaient du sanctuaire en oubliant dans la ville comment ces méchants ont agi. Cela aussi est vanité. Ça ne vous aura peut-être pas frappé de constater que parfois, on fait, j'ai presque envie de dire, on offre des funérailles nationales à des personnes dont on sait pertinemment qu'elles ont fait des choses graves dans leur vie, des choses condamnables. D'ailleurs, parfois, elles ont été condamnées. La corruption et autres, la liste est longue. Parce que finalement, à la mort d'une personne, on ne retient que les bonnes choses. Je me souviens d'une cérémonie d'obsèques, quelqu'un me dit à voix basse, « Mais qu'est-ce que ça sonne faux, cette cérémonie ? Cet éloge pour la personne ?» On peut penser à des hommes politiques, dont on retient bien des choses bonnes qu'ils ont faites, mais alors ont-elles le reste ? Il y a quelque chose d'injuste ici, d'autant que la justice à laquelle on aspire, eh bien, elle tarde à se manifester. On aimerait, comme on le voit au verset 11, que voilà, quand il y a une sentence tout de suite là pour chaque mauvaise action, parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas vite exécutée, le cœur des humains est rempli du désir de faire le mal. Alors l'Ecclésiaste ne mentionne pas s'il pense à la justice humaine ou s'il a en tête plutôt la justice de Dieu, peut-être un peu des deux. Quoi qu'il en soit, eh bien, comme la sagesse n'est pas toujours récompensé et qu'en plus, les méchants, eux, ils ne sont pas toujours châtiés ou en tout cas pas aussi vite qu'on le souhaiterait, eh bien, ça n'encourage pas à la pratique de la sagesse, à une vie vertueuse, et ça conduit à une prolifération du mal. Et c'est ce que l'Ecclésiaste, d'ailleurs, va mentionner et dénoncer dans les versets 12 à 14, que je ne relis pas, mais où ça ne vous aura peut-être pas échappé tout à l'heure, qu'il dit quelque chose et exactement le contraire au verset suivant. Il y a quelque chose de très paradoxal dans ce que l'Ecclésiaste dit ici. Il dit que les méchants sont portés au mal, et malgré cela, ils ont une longue vie. Alors déjà, c'est assez paradoxal, parce que dans la Bible, avoir une longue vie, c'est un signe de bénédiction de Dieu. Est-ce que Dieu sera en train de bénir la vie des méchants? C'est curieux. En tout cas, il y a quelque chose d'injuste ici, à vue humaine, au regard humain, simplement dans la constatation. Et puis, il dit que ceux qui craignent Dieu s'en trouveront bien, contrairement aux méchants qui ne vivront, eux, pas longtemps. Alors, qui vient de dire avant qu'ils vivront longtemps. Donc, c'est tout le contraire. Et enfin, verset 14, il dit que les justes sont traités comme les méchants, et les méchants sont traités comme les justes. Alors, comment comprendre ce que dit l'Ecclésiaste ici? Une clé de lecture apparaît dans ce petit mot, ce « je sais » ici du verset 12. Par cette expression « je sais », l'Ecclésiaste exprime des convictions fortes. Il dit ce qu'il sait au plus profond de lui. C'est le « je sais » de la foi en Dieu. Je sais en qui je crois. Je sais qui est Dieu. Je sais que j'ai un Dieu juste. Mais en même temps, le même Ecclésiaste dit, et il le dit souvent dans son livre, il dit ceci, j'ai observé, j'ai appliqué mon cœur à, j'ai réfléchi, j'ai constaté que... Parce qu'en fait, il y a une tension, il y a un tiraillement entre, d'un côté, ce qu'il observe, ce qu'il voit, ce qu'il dénonce dans le monde qui ne va pas, en l'occurrence ici les injustices, mais pas que, et de l'autre côté, il y a tout ce qui au plus profond de lui, tout ce qu'il peut affirmer avec assurance. D'un côté, il sait la bonté de Dieu, la justice de Dieu, mais en même temps, il observe les injustices, la justice qui tarde à se manifester. Et quand elle se manifeste, il l'a dit un peu plus tôt dans son livre, hein, quand la justice humaine se manifeste, il n'est pas rare qu'elle soit corrompue. Et donc, il y a ce tiraillement. Et ce tiraillement, en fait, nous l'expérimentons nous aussi, quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons. Comment concilier la foi en Dieu qui est juste et qui rétribue selon les œuvres, et en même temps la réalité des injustices, la souffrance qu'on observe dans ce monde? Comment concilier cela? Et en fait, l'Ecclésiaste, il laisse cette question en suspens. Simplement, il conclut, fin du verset 14, je dis que c'est là encore une vanité. Il pose ses constats, mais il n'a pas de réponse. Lui, le sage, il n'a pas de réponse. Alors pour nous qui vivons bien après l'Ecclésiaste, même après la première venue de Jésus qui a eu lieu il y a quelques 2000 ans, bien sûr on a en tête la justice qui arrivera à la fin des temps, lorsque Jésus va revenir pour établir son règne de justice, pour juger le monde. Mais néanmoins, pour le présent, pour maintenant, nous faisons avec l'Ecclésiaste le constat d'un monde qui est marqué par le péché et ses conséquences, sans que toute injustice ne trouve sa rétribution dans la vie présente. Et donc, pour les uns, oui, le méchant va prolonger, on va voir se prolonger sa vie. Un peu comme dans le psaume 73 et l'auteur de ce psaume de constater avec désarroi que les méchants, ils prospèrent. Mais dans d'autres cas, on voit aussi l'inverse. On voit des méchants qui s'en trouvent pas bien et des justes qui s'en trouvent bien. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, marqué par le péché avec ses conséquences, il n'y a pas toujours cette justice qui s'accomplit, cette rétribution pour l'instant présent. Parfois c'est le cas, parfois ce n'est pas le cas. Et ça donne lieu ici à ce discours, non pas que l'Ecclésiaste, là, il est en train de dérailler, non, il constate, et il n'a pas de réponse. Et en même temps, je nous invite à voir les choses sous un angle différent et à nous poser la question, y a-t-il une raison pour laquelle la justice de Dieu tarde à se manifester? Je mentionnerai deux raisons. Premièrement, le fait que la justice de Dieu ne se manifeste pas toujours là sur le moment, à l'instant T, au moment de la faute, au moment de l'offense, au moment du problème, c'est aussi une manière de nous encourager à continuer de faire confiance en ce Dieu de justice, en ce Dieu qui est là, qui, on le sait, sa justice se manifestera tôt ou tard. On le sait, tout comme l'Ecclésiaste dit « je sais ». On le sait, nous aussi. C'est le « je sais », on le sait de la confiance en Dieu. Et deuxièmement, si Dieu ne juge pas toujours les fautes sur le moment, c'est aussi et surtout pour donner la possibilité, pour laisser aux méchants, aux pécheurs, la possibilité de changer, de se repentir, de changer dans sa conduite. Parce qu'en fait, quand on regarde bien la parole de Dieu, c'est dans la nature même de Dieu. Je lis ces quelques versets avec vous. L'Éternel est un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Et encore, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir, à changer dans leur manière de vivre. Dieu, l'Éternel, le Seigneur, il est bon. Il est patient, il est compatissant, il fait grâce, il est lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, en bienveillance. Tout cela pour donner l'occasion de se repentir. Et ça vaut pour les grands de ce monde, ça vaut pour les gens qui nous ont fait du mal, mais ça vaut aussi pour nous, pour chacun, pour nous-mêmes. Parce que avant de regarder aux autres, regardons aussi à soi-même, à nous-mêmes, à nos propres fautes, à notre propre endurcissement de cœur. Combien des fois on persiste, nous aussi, dans le mal, dans une propension à ne pas vouloir pardonner, dans un péché ou un même péché qu'on répète. Et le Seigneur, il ne veut pas qu'on continue. Il veut au contraire nous encourager à nous repentir, à changer notre conduite. La patience de Dieu n'est aucunement une raison de persister dans le mal, comme on l'a vu dans le verset 11. Ce n'est pas une prolifération du mal qu'il faut viser, au contraire, plutôt un changement, un abandon de notre mauvaise conduite. Alors, que reste-t-il après tous ces constats que fait l'Ecclésiaste ? Quelle est sa conclusion? Verset 15. Alors, j'ai fait l'éloge de la joie. En effet, il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon manger, boire et se réjouir. C'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur auquel il se livre pendant les jours de sa vie que Dieu lui donne sous le soleil. On a ici, avec ce verset 15, un nouveau refrain sur le bonheur. Mais je dis nouveau parce qu'il a déjà plusieurs fois fait ce refrain sur le bonheur, avec des petites notions, des accents différents. Mais ici, il y a une intensité supérieure, supplémentaire ici. Il fait l'éloge de la joie. Cet éloge de la joie, elle prend part au milieu d'une existence humaine qui est marquée par toutes ces injustices dont on vient de parler, par toutes ces tensions, tous ces tiraillements. Cet éloge de la joie, ce n'est pas une fuite de la réalité pour tenter de se soustraire de la réalité. Non, il s'agit bien plutôt d'accueillir la joie, c'est-à-dire d'accueillir toutes ces bonnes choses que Dieu nous donne. Et il en mentionne plusieurs ici. Il nous les donne pour qu'on en profite, pour qu'on en jouisse dans la vie présente, au milieu de toute notre activité qui a son lot d'épreuves et de peines. Il nous faut faire l'éloge de la joie, d'autant plus que nous ne pouvons pas comprendre toute l'œuvre que Dieu accomplit sous le soleil. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 16 et verset 17. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre, et pour lesquels les yeux de l'homme ne voient le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Vraiment, l'homme ne peut comprendre toute l'œuvre qui se fait sous le soleil. L'homme a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si le sage prétend savoir, il ne peut pas comprendre. Alors ça peut paraître paradoxal, parce qu'au verset 1, tout à l'heure, j'ai dit qu'on reviendrait sur ce verset 1, l'Ecclésiaste avait posé deux questions. Hein. Qui est comme le sage, sous-entendant, c'est celui qui connaît l'interprétation des choses. Mais en fait, l'Ecclésiaste ne se contredit pas. Il dit que si le sage sait interpréter les choses, cependant, il n'est pas capable de les expliquer toutes et complètement. La preuve, versets 12 à 14, il laisse la question en suspens. C'est la vanité. Il n'a pas l'explication. Il y a malgré tout bien des choses qu'on ne peut pas comprendre, même si on peut en appréhender, comprendre certaines. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre dans tout ce qui se passe dans l'activité humaine. Il me semble qu'il y a ici une invitation à prendre conscience avec lucidité que nous ne pouvons pas tout comprendre de tout ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Là où bien des personnes, et en particulier des chrétiens, vont avoir une lecture, une compréhension de tout ce qui se passe dans les actualités, eh bien l'Ecclésiaste semble dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Même à force de s'efforcer de comprendre, jusqu'à être fatigué par nos recherches, verset 17, nous ne comprendrons pas tout de l'œuvre de Dieu. Job avait fait le même constat dans son livre. Il cherchait à comprendre pourquoi il lui arrivait tout ce par quoi il est passé, toutes ses souffrances, tout qui lui arrive, là, il pensait avoir compris. Et puis Dieu lui a fait comprendre qu'en fait, il s'était trompé et que Job avait parlé sans comprendre. En fin de compte, c'est être sage, je recommence. En fin de compte, c'est être sage que de comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exercer du discernement. Bien au contraire. Le croyant, le chrétien, c'est quelqu'un qui apprend à discerner. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui prie. Mais en étant lucide, on ne peut pas tout comprendre de tout ce qui se passe. Beaucoup de choses nous échappent. Beaucoup de choses nous échappent, mais rien n'échappe à Dieu. On ne peut pas tout comprendre de l'action de Dieu qui se manifeste. Et j'aimerais citer ce verset que Paul dit à la fin du chapitre 11 de la lettre aux Romains. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire. Amen. Ce serait dommage de se livrer à la réflexion pour s'efforcer de tout comprendre au détriment de profiter des bonheurs et de la joie que Dieu nous donne dans la vie présente. D'autant qu'il y a une consolation, une assurance même avec le dernier verset que nous méditons. Car j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. En tant que croyant en Dieu, notre vie, nos actions, nos entreprises, tout ce que nous menons, tout cela est dans la main de Dieu. Finalement, on n'a pas besoin de tout connaître, de tout comprendre, de chercher des explications à tout ce qui se passe. Le plus important, c'est de se savoir, de nous savoir, dans la main, dans la bonne et sûre main de Dieu. Que c'est bon de prendre conscience, pour les croyants que nous sommes, qu'au sein de cette existence, marquée par ce lot d'injustice, de frustration, de peine, de souffrance, nous ne tomberons jamais plus bas que dans la main de Dieu. Quelle assurance ! Une assurance, mais aussi une double invitation. Premièrement, une invitation à placer notre confiance en celui qui s'occupe de nous. Lui, il sait toutes choses. Alors, à quoi bon chercher à prendre la place de Dieu pour essayer de tout comprendre et de mettre des mots, des sens à tout ce qui se passe ? On sait pertinemment qu'on ne peut pas le faire. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la confiance en Dieu. Je fais confiance en celui qui me tient dans sa main. Deuxièmement, une invitation à vivre dans la justice, car c'est bien des justes dont il est question dans ce verset. Vivons dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans ce profond respect à l'égard de Dieu, cette déférence, cette reconnaissance de la majesté divine, de la grandeur de Dieu. Trois points prédominent dans la conclusion de l'Ecclésiaste, dans les versets 15, 16, 17 et le verset 1 du chapitre 9 ici. La joie, la confiance en Dieu et une vie menée dans la justice, dans la droiture. Qu'en est-il de la joie dans votre vie ? Comment compléteriez-vous cette phrase ? Si seulement, point de suspension, alors je serais heureux, je serais joyeux. Qu'est-ce qu'il vous manque pour que votre joie soit parfaite, complète ? De quoi dépend votre joie ? Est-ce qu'elle dépend des circonstances ? Est-ce que votre joie dépend de vos réussites professionnelles ? De vos réussites sportives, des réussites de votre entourage, de vos enfants, de vos petits-enfants? Est-ce que votre joie dépend de la qualité de vos vacances d'été? Est-ce que votre joie dépend du nombre de médailles au tableau de la France aux Jeux Olympiques? Et je vous renvoie à la prédication d'Olivier dimanche dernier, qui parlait de cette joie. La joie, la véritable joie, ne se trouve qu'en Dieu, dans une relation personnelle avec Dieu. Dieu est la source de la joie. La joie se reçoit par la grâce de Dieu. Nous avons un Dieu qui veut qu'on soit joyeux dans notre vie au quotidien. Qu'en est-il de la joie dans votre vie ? Qu'en est-il de la confiance en Dieu dans votre vie ? Car nous ne pouvons pas connaître de quoi demain sera fait, mais nous pouvons connaître celui qui nous tient dans sa main. Ayons confiance que, même sous l'apparent désordre des événements qu'il y a dans le monde qui nous entoure, ce monde dans lequel nous vivons, eh bien, l'œuvre de Dieu s'accomplit. Et d'ailleurs, déjà tout au long de l'Ancien Testament, l'œuvre de Dieu, on la voit s'accomplir. Tout ne s'est pas passé comme Dieu aurait aimé que les choses se passent. Il a donné la loi et puis les êtres humains n'ont fait qu'à leur tête. Endurcissement de cœur, ils ont désobéi à Dieu, mais ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir son plan tout au long de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour accomplir le plan de salut que Dieu avait conçu de toute éternité pour nous sauver. Alors nous pouvons faire confiance que même dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où bien des choses ne vont pas, les choses ne se passent pas sans que Dieu mette sa main, sans que Dieu empêche peut-être même que ça soit pire. Faisons confiance à Dieu par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, même si nous ne comprenons pas tout,
Mais faisons confiance aussi à Dieu pour notre salut. Il n'y a rien à attendre de plus que ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Sa mort sur la croix. Et même avant ça, sa vie parfaite. Sa vie parfaite par laquelle il a pu prendre sur la croix nos fautes, nos péchés, parce qu'il n'avait pas besoin de mourir pour ses propres fautes. Il n'en avait pas. Sa mise au tombeau, sa résurrection, son retour vers Dieu le Père, d'où il règne depuis dans le ciel. Qu'en est-il de votre confiance en Dieu? Et enfin, cette confiance en Dieu, elle se traduit par cette obéissance, à Dieu, à Jésus, dans une vie de justice, dans une vie dans la crainte de Dieu, car c'est un fil conducteur dans ce livre de l'Ecclésiaste, cette crainte de Dieu, ce profond respect à son égard. J'aimerais vous inviter à un temps de silence pour faire résonner cela dans notre cœur à chacun, et après quoi nous triompherons et chanterons d'allégresse avec nos musiciens qui vont nous conduire dans ce chant. Mais d'abord un temps de silence.